deuxième. Chapitre 1. Sorcière de la décadence, Satan multiplié, vulgarisé. Le délicat bijou du diable, la petite sorcière conçue de la messe noire où la grande a disparu, elle est venue, elle a fleuri, en malice, en grâce de chat. Celle-ci, toute contraire à l'autre, fine et oblique d'allure, sournoise, filant doucettement, faisant volontiers le gros dos. Rien de titanique à coup sûr. Loin de là, basse de nature. Dès le berceau, lubrique et toute pleine de mauvaises friandises, elle exprimera toute sa vie certains moments nocturnes, impurs et troubles, ou certaines pensées dont un eut horreur le jour, usa des libertés du rêve. Celle qui naît avec ce secret dans le sang, cette science instinctive du mal, qui a vu si loin et si bas, elle ne respectera rien, ni chose, ni personne en ce monde, n'aura guère de religion, guère pour Satan lui-même, car il est encore un esprit, et celle-ci a un goût unique pour toute chose de matière. Enfant, elle salissait tout. Grande lette, jolie, elle étonne de malpropreté. Par elle, la sorcellerie sera je ne sais quelle cuisine, de je ne sais quelle chimie. De bonne heure, elle manipule surtout les choses répugnantes. Les drogues aujourd'hui, demain les intrigues, c'est là son élément, les amours et les maladies. Elle sera fine entremetteuse, habile, audacieuse. Empirique. On lui fera la guerre pour de prétendus meurtres, pour l'emploi des poisons. À tort, elle a peu l'instinct de telles choses, peu le goût de la mort. Sans bonté, elle aime la vie, à guérir, prolonger la vie. Elle est dangereuse en deux sens. Elle vendra des recettes de stérilité, d'avortement peut-être. D'autre part, effrénée, libertine d'imagination, elle aidera volontiers à la chute des femmes par ses damnés breuvages, jouira des crimes d'amour. Oh, que celle-ci diffère de l'autre. C'est un industriel. L'autre fut l'impie, le démon. Elle fut la grande révolte, la femme de Satan, et on peut dire sa mère, car il a grandi d'elle et de sa puissance intérieure. Mais celle-ci est tout au plus la fille du diable. Elle a de lui deux choses. Elle est impure et elle aime à manipuler la vie. C'est son lot. Elle y est artiste. Déjà artiste à vendre, et nous entrons dans le métier. On dit qu'elle se perpétuera par l'inceste dont elle est née, mais elle n'en a pas besoin. Sans mal, elle fera d'innombrables petits. En moins de 50 ans, au début du 15e, sous Charles VI, une contagion immense s'étend. Quiconque croit avoir quelque secret, quelque recette, quiconque croit deviner, quiconque rêve et voyage en rêvant, se dit favori de Satan. Toute femme lunatique prend pour elle ce grand nom, sorcière. Nom périlleux, nom lucratif, lancé par la haine du peuple, qui, tour à tour, injurie et implore la puissance méconnue. Il n'en est pas moins accepté, revendiqué souvent. Aux enfants qui la suivent, aux femmes qui menacent du poing, lui jettent ce mot comme une pierre, elle se retourne et dit avec orgueil, « C'est vrai, vous l'avez dit. » Le métier devient bon, et les hommes s'en mêlent. Nouvelle chute pour l'art. La moindre des sorcières a cependant encore un peu de la sibylle. Ceux-ci, sordides charlatans, jongleurs grossiers, taupiers, tueurs de rats, jeteurs de sorts aux bêtes, vendant les secrets qu'ils n'ont pas, empuantissent tant de sombres fumées noires, de peurs et de bêtises. Satan devient immense, immensément multiplié. Pauvre triomphe, il est ennuyeux, plat. Le peuple afflue pourtant à lui, ne veut guère d'autre dieu. C'est lui qui se manque à lui-même. Le 15e siècle, malgré 2 ou 3 grandes inventions, n'en est pas moins, je crois, un siècle fatigué, de peu d'idées. Il commence très dignement par le sabbat royal de Saint-Denis, le bal effréné et lugubre que Charles VI fit dans cette abbaye pour l'enterrement de Du Guesclin, enterré depuis tant d'années. 3 jours, 3 nuits, Sodome se roula sur les tombes. le fou qui n'était pas encore idiot, força tous ses rois, ses aïeux, ses os secs, sautant dans leur bière, de partager son bal. La mort, bon gré mal gré, devint entremetteuse, donna aux voluptés un cruel aiguillon. Là éclatèrent les modes immondes de l'époque, où les dames, grandies du hennin diabolique, faisaient valoir le ventre et semblaient toutes enceintes, admirable moyen de cacher les grossesses. Elles y tinrent, cette mode dura 40 années. L'adolescence, d'autre part, effrontée, les éclipsait en nudité saillante. La femme avait Satan au front dans le bonnet cornu. Le bachelier, le page, l'avait au pied dans la chaussure à fine pointe de scorpion. Sous masque d'animaux, il s'offrait hardiment par les bas-côtés de la bête. Le célèbre enleveur d'enfants, Ray, lui-même alors page, prit là son monstrueux essor. Toutes ces grandes dames de fief, effrénées Jézabel, moins pudibondes encore que l'homme, ne daignaient se déguiser. Elles s'étalaient à face nue. Leur furie sensuelle, leur folle ostentation de débauche, leurs outrageux défis furent pour le roi, pour tous, pour le sens, la vie, le corps, l'âme, l'abîme et le gouffre sans fond. Ce qui en sort, ce sont les vaincus d'Azincourt, pauvres générations de seigneurs épuisés, qui, dans les miniatures, font grelotter encore à voir, sous un habit perfidement serré, leurs tristes membres amaigris. Je plains fort la sorcière, qui, au retour de la grande dame après la fête du roi, sera sa confidente et son ministre, dont elle exigera l'impossible. Au château, il est vrai, elle est seule, l'unique femme, ou à peu près, dans un monde d'hommes non mariés. À en croire les romans, la dame aurait eu plaisir à s'entourer de jolies filles. L'histoire et le bon sens disent justement le contraire. Éléonore n'est pas si sotte que de s'opposer Rosamonde. Ces reines et grandes dames, si licencieuses, n'en sont pas moins horriblement jalouses. Exemple, celle que compte Henri Martin, qui fit mourir sous les outrages des soldats une fille qu'admirait son mari. La puissance d'amour de la dame, répétons-le, tient à ce qu'elle est seule. Quelle que soit la figure et l'âge, elle est le rêve de tous. La sorcière a beau jeu de lui faire abuser de sa divinité, de lui faire faire riser de ce troupeau de mâles assotis et domptés. Elle lui fait oser tout, les traiter comme bêtes. Les voilà transformés. Ils tombent à quatre pattes, singes flatteurs, ours ridicules ou chiens lubriques, pourceaux avides à suivre l'outrageuse Circé. Tout cela fait pitié. Elle en a la nausée. Elle repousse du pied ces bêtes rampantes. Cette immonde, pas assez coupable. Elle trouve à son mal un absurde remède. C'est, lorsque ceux-ci sont si nuls, d'avoir plus nul encore, de prendre un tout petit amant. Conseil digne de la sorcière. Susciter avant l'heure l'étincelle dans l'innocent qui dort du pur sommeil d'enfance. Voilà la laide histoire du petit Jean de Saint-Tré, type des chérubins, et autres poupées misérables des âges de décadence. Sous tant d'ornements pédantesques et de moralité sentimentale, la basse cruauté du fond se sent très bien. On y tue le fruit dans la fleur. C'est en ce sens la chose qu'on reprochait à la sorcière, de manger des enfants. Tout au moins, on en boit la vie. Sous forme tendre et maternelle, la belle dame caressante n'est-elle pas un vampire pour épuiser le sang du faible? Le résultat de ces énormités, le roman même nous le donne. Saint-Tré, dit-il, devient un chevalier parfait, mais parfaitement frêle et faible, si bien qu'il est bravé, défié par le butor de paysan abbé, en qui la dame, enfin mieux avisée, voit ce qui lui convient le mieux. Ses 20 caprices augmentent le blasement, la fureur du vide. Circé au milieu de ses bêtes, ennuyée, excédée, voudrait être bête elle-même. Elle se sent sauvage, elle s'enferme. De la tourelle, elle jette un regard sinistre sur la sombre forêt. Elle se sent captive, et elle a la fureur d'une louve qu'on tient à la chaîne. « Vienne à l'instant la vieille, je la veux, courez-y » Et 2 minutes après, « Quoi ? N'est-elle pas déjà venue ?»« La voici. » »« Écoute bien, j'ai une envie. » »« Tu le sais, c'est insurmontable. L'envie de t'étrangler, de te noyer ou de te donner à l'évêque qui déjà te demande. Tu n'as qu'un moyen d'échapper, c'est de me satisfaire une autre envie. » De me changer en louve. Je m'ennuie trop. assez rester. Je veux, au moins la nuit, courir librement la forêt. Plus de sots serviteurs, de chiens qui m'étourdissent, de chevaux maladroits qui heurtent, évitent les fourrés. Mais, madame, si l'on vous prenait, insolente, ah, tu périras. Du moins, vous savez bien l'histoire de la dame louve dont on coupa la patte. Que de regrets j'aurais. C'est mon affaire, je ne t'écoute plus, j'ai hâte, et j'ai jappé déjà. Quel bonheur, chasser seul au clair de lune, et seul mordre la biche, l'homme aussi, s'il en vient, mordre l'enfant si tendre, et la femme surtout. Oh, la femme, y mettre la dent. Je les hais toutes, pas une autant que toi. Mais ne recule pas, je ne te mordrai pas, tu me répugnes trop, et d'ailleurs tu n'as pas de sang. Du sang, c'est ce qu'il me faut. Il n'y a pas à dire non. Rien de plus aisé, madame. Ce soir, à 9 heures, vous boirez. Enfermez-vous. Transformez, pendant qu'on vous croit là, vous courrez la forêt. Cela se fait, et la dame au maton se trouve excédée, abattue, elle n'en peut plus. Elle doit cette nuit avoir fait 30 lieues. Elle a chassé, elle a tué, elle est pleine de sang, mais ce sang vient peut-être des ronces où elle s'est déchirée. Grand orgueil, et péril aussi pour celle qui a fait ce miracle. La dame qui l'exigea cependant la reçoit fort sombre. « Ô sorcière, que tu as là un épouvantable pouvoir, je ne l'aurais pas deviné. Mais maintenant j'ai peur et j'ai horreur. Oh, qu'à bon droit tu es haïe. Quel beau jour ce sera quand tu seras brûlée. Je te perdrai quand je voudrais. Mes paysans ce soir repasseraient sur toi leur fou si je disais un mot de cette nuit. Va-t'en, noire, exécrable vieille. » Elle est précipitée par les grands, ses patrons, dans d'étranges aventures. N'ayant que le château qui la garde du prêtre, la défend un peu du bûcher. Que refusera-t-elle à ses terribles protecteurs? Si le baron revenu des croisades, de Nicopolis par exemple, imitateur de la vie turque, la fait venir, la charge de voler pour lui des enfants, que fera-t-elle? Ces razzias, immenses en pays grec, où parfois 2000 pages entraient à la fois au sérail, n'étaient nullement inconnues aux chrétiens, aux barons d'Angleterre dès le XIIe siècle, plus tard aux chevaliers de Rhodes ou Malte. Le fameux Gilles de Rais, le seul dont on fit le procès, fut puni non d'avoir enlevé ses petits cerfs, chose peu rare, mais de les avoir immolés à Satan. Celles qui les volaient, et qui sans doute ignoraient leur destin, se trouvaient entre 2 dangers. D'une part, la fourche et la faux du paysan, de l'autre, les tortures de la tour qu'un refus lui aurait valu. L'homme de Rais, son terrible Italien, eut fort bien pu la piler au mortier. De tous côtés, péril et gain. Nulle situation plus horriblement corruptrice. Les sorcières elles-mêmes ne niaient pas les absurdes puissances que le peuple leur attribuait. Elles avouaient qu'avec une poupée percée d'aiguilles, elles pouvaient envoûter, faire maigrir, faire périr qui elles voulaient. Elles avouaient qu'avec la mandragore, arrachée du pied du gibet, par la dent d'un chien, disait-elles, qui ne manquait pas d'en mourir, elles pouvaient pervertir la raison, changer les hommes en bêtes, livrer les femmes aliénées et folles. Bien plus terrible encore le délire furieux de la pomme épineuse, ou datura, qui fait danser à mort, subir 1000 hontes dont on n'a ni conscience ni souvenir. De là d'immenses haines, mais aussi d'extrêmes terreurs. L'auteur du Marteau des sorcières, Sprenger, raconte avec effroi qu'il vit par un temps de neige, toutes les routes étant défoncées, une misérable population, éperdue de peur et maléficiée de maux trop réels, qui couvrait tous les abords d'une petite ville d'Allemagne. Jamais, dit-il, vous ne vîtes de si nombreux pèlerinages à Notre-Dame de Grâce ou Notre-Dame des Ermites. Tous ces gens par les fondrières, clochant, se traînant, tombant, s'en allaient à la sorcière, implorer leur grâce du diable. Quel devait être l'orgueil et l'emportement de la vieille de voir tout ce peuple à ses pieds.